Bonjour à tous, Yacouba Ouidraougou avec vous. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire en cette matinée du vendredi 11 octobre, au Niger, 9 responsables du régime renversé ont été provisoirement déchus de leur nationalité, soupçonnés par le gouvernement militaire, entre autres, de complot contre l'autorité de l'État. Les autorités camerounaises ont formellement interdit aux médias d'évoquer la santé du président. Le puissant ouragan Milton a balayé dans la nuit de mercredi à jeudi la Floride, provoquant tornades et inondations.
Nous avons passé les nuits très très dures avec un très grand bruit du vent. Dans toute ma vie, je n'ai jamais entendu un vent si fort que celui que j'ai entendu la nuit passée.
Témoignage à suivre dans la partie magazine de cette édition. En sport, début hier des matchs de la troisième journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Des résultats dans un peu plus de 10 minutes, juste après l'économie. Mais d'abord, le journal. Au Niger, 9 responsables du régime civil renversé en juillet 2023 sont provisoirement déchus de leur nationalité. Le gouvernement militaire qui l'a annoncé dit les soupçonner, entre autres, de complot contre l'autorité de l'État. Les précisions d'Abdourahmane Dia.
Parmi les 9 hommes provisoirement déchus de la nationalité nigérienne figurent les généraux Mamadou Abou Tarka de la Haute Autorité de la Consolidation de la Paix et Karim Gama Wali Ibrahim, ancien chef de la garde présidentielle. Daouda Djibo Takoubakoy, adjoint au directeur de cabinet du président renversé Mohamed Bazoum, et son conseiller en sécurité Rissa Agboula sont aussi concernés. Les 9 personnes sont soupçonnées de mener des activités susceptibles de perturber la paix et la sécurité publique et d'intelligence avec une puissance étrangère pour entreprendre des hostilités contre l'État, faciliter la pénétration des forces étrangères sur le territoire nigérien, explique le gouvernement. Le décret signé par le général Abdourahmane Tchiani, chef de l'État, ajoute qu'elles sont aussi soupçonnées de participation à une entreprise de démoralisation de l'armée et de diffusion de données ou de propos de nature à troubler l'ordre public.
Au Nigeria, les agences de sécurité de Kano, la plus grande ville du Nord, ont renforcé leur vigilance face à l'afflux de gangs criminels qui quittent leurs enclaves dans l'État voisin des Zamfara pour échapper aux offensives militaires en cours. Le point avec Michel Joseph.
Le rapport transmis lundi par les services de renseignement du gouverneur de l'État de Zamfara aux autorités policières de Kano fait suite à l'offensive militaire en cours contre les bandits dans l'État de Katsina, Sokoto et Zamfara. Ces offensives ont permis de tuer plusieurs chefs de file de ces gangs, dont Alilou Soubougou, un des grands chefs du banditisme dans le nord-ouest du pays. Des hommes identifiés comme des informateurs de bandits achètent des maisons dans 6 quartiers de Kano et s'y installent avec leur famille, explique ce rapport signé par Bachir Makama des services de renseignement de Zamfara. Le nord-ouest et le centre du Nigeria sont terrorisés depuis plusieurs années par des bandes criminelles, localement appelées bandits, qui attaquent les villages, tuent les habitants, pillent et brûlent les maisons. Ces gangs, qui ont établi leur camp dans une immense forêt, à cheval sur les États de Zamfara, Katsina, Kaduna et Niger, se sont illustrés ces dernières années par des enlèvements massifs d'écoliers.
Après avoir vigoureusement démenti des rumeurs alarmantes sur l'état du président Paul Biya, les autorités camerounaises ont formellement interdit aux médias d'évoquer la santé du président dans une note ministérielle adressée aux gouverneurs régionaux. Le point avec Rosine Munesero.
Le chef de l'État est la première institution de la République et les débats sur son état relèvent du domaine de la sécurité nationale, stipule la note signée par Paul Atanganji, ministre de l'administration territoriale. Tout débat dans les médias sur l'état du président de la République est par conséquent formellement interdit et les contrevenants devront faire face à la rigueur de la loi, poursuit cette note. L'absence prolongée du chef de l'État, qui n'a fait aucune apparition publique depuis début septembre, a suscité des rumeurs sur les réseaux sociaux. Présent au sommet du Forum de la coopération Chine-Afrique, Paul Biya n'a pas participé à la dernière Assemblée générale de l'ONU à New York, ni au dernier sommet de la francophonie. Pour couper court aux rumeurs l'annonçant gravement malade, voire décédé, la présidence a publié mardi un communiqué rassurant sur son excellent état de santé. Il travaille et va à ses occupations à Genève. Il se porte bien et rejoindra le Cameroun dans les prochains jours, selon le porte-parole du gouvernement. À 91 ans, Paul Biya est le plus vieux dirigeant élu en exercice. Il dirige sans partage le Cameroun depuis plus de 41 ans.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En République démocratique du Congo, le procès en appel dans l'affaire de la tentative de coup d'État s'est ouvert hier dès de Kinshasa. 37 personnes ont été condamnées à la peine capitale, dont 3 Américains, tous reconnus coupables en septembre par un tribunal militaire d'association de malfaiteurs et d'attentats. Au total, 51 personnes ont été présentées à la justice dans ce dossier. 14 ont été acquittées lors du premier procès. Tous les accusés avaient plaidé non coupables. La prochaine audience est prévue le 18 octobre. Au Tchad, à la confluence des fleuves Chari et Logone, des habitants de N'Djamena tentent de s'organiser face à la montée inexorable des eaux alimentées par les pluies diluviennes qui ont fait 576 morts et près de 2 millions de sinistrés depuis juillet. Les précisions de John Lindon.
La pluie a emporté certaines maisons, du bétail et inondé nos cultures, déplore Timons Fayaba Faba, un habitant du quartier de Tougoudé, venu se réfugier dans un camp improvisé à l'abri d'une digue dans le sud-est du 9e arrondissement de la capitale. Comme des dizaines de familles, lui et les siens ont fui il y a 4 jours leur quartier, envahi par les eaux du Logone, désormais uniquement accessible en pirogue. Ils ont trouvé refuge sous des abris de fortune construits avec des branchages, des sacs de riz et des tissus. Les terres au sud de la digue sont complètement immergées. Nous manquons de tout, nous n'avons plus de nourriture et nous ne pouvons pas compter sur la prochaine récolte, détruite par l'inondation. Nos enfants ne vont plus à l'école et nous n'avons même pas de quoi nous protéger des prochaines pluies et des moustiques, se lamente l'homme de 59 ans. Les eaux du Chari, qui rejoint N'Djamena, son affluent le Logone, ne cessent de monter et ont atteint mercredi un niveau record de plus de 8 mètres, selon les mesures officielles. Chaque minute est précieuse, a averti le Premier ministre Alamaï Alina lors d'une réunion de crise mercredi.
Quelques 893 000 personnes ont été affectées par les graves inondations au Soudan du Sud et plus de 241 000 personnes ont été déplacées par les intempéries. L'annonce est faite par le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU. Selon OCHA, des personnes ont été affectées par les inondations dans 42 comtés et dans la région administrative d'Abéi, une zone que revendiquent le Soudan et le Soudan du Sud. L'épidémie du virus de Marburg au Rwanda est désormais maîtrisée et le risque de propagation de cette fièvre hémorragique hors des frontières du pays est presque nul. C'est ce qu'a affirmé hier l'Africa CDC, l'agence sanitaire de l'Union africaine. Nanit Talani donne les détails.
Lors d'une conférence de presse, Jean Kaseya, directeur général de l'Africa CDC, a soutenu que l'épidémie est maîtrisée. Le ministre rwandais de la Santé, Sabin Sazimana, a précisé que son pays a enregistré 58 cas de contamination au virus de Marburg, dont 13 décès. 12 personnes se sont rétablies et plus de 2700 individus ont été testés. Il souligne qu'aucun nouveau cas ni décès n'ont été signalés au Rwanda. Cela signifie que nous nous attendons à voir le Rwanda sortir de l'épidémie très bientôt, a-t-il indiqué, insistant sur le fait que le risque de propagation internationale est presque nul, avec une certitude de 95% de zéro risque. L'épidémie, annoncée le 28 septembre, a conduit au lancement d'une campagne de vaccination avec un vaccin expérimental le week-end dernier. Le virus de Marburg, très dangereux, avec un taux de mortalité pouvant atteindre 88%, provoque une forte fièvre, souvent accompagnée d'hémorragies affectant plusieurs organes.
Les présidents érythréens Isaias Afewerki, égyptiens Abdel Fattah al-Sissi et somaliens Hassan Cheikh Mohamud ont convenu hier de collaborer étroitement à la sécurité régionale lors d'un sommet tripartite sans précédent à Asmara, capitale de l'Érythrée. Au menu, guerre au Soudan, signature d'un accord controversé entre l'Éthiopie et la région séparatiste somalienne du Somaliland, situation dans la mer Rouge où les rebelles houthis du Yémen mènent de nombreuses attaques contre des navires. L'Italie a accusé hier Israël de possibles crimes de guerre après que la force de l'ONU déployée entre le Liban et Israël a dénoncé des tirs israéliens répétés. Sur ses positions, deux casques bleus de nationalité indonésienne ont été blessés. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Passons maintenant à la page économie, c'est la Minute Éco avec Nanit Salami.
En RDC, le prix du sac de ciment gris est passé de 45 000 à 55 000 francs congolais à Kinshasa. Les vendeurs attribuent cette hausse à la rareté du produit sur le marché suite à la grève de l'Association des transporteurs poids lourds de Kinshasa et du Congo central. La crise affecte également d'autres produits, notamment les produits frais ou manufacturés, en provenance de l'extérieur via le Congo central. La Zambie veut créer une nouvelle entité pour l'investissement et le commerce des minerais dans le but de tirer davantage profit de ses ressources naturelles. La nouvelle entité, selon les autorités, aiderait Lusaka à adopter un mécanisme de partage basé sur la production afin de garantir que les bénéfices reviennent au peuple zambien et garantir la déclaration correcte des envois de minerais destinés à l'exportation et à l'usage intérieur. Pour terminer, en Égypte, le gouvernement a décidé de réduire le nombre de matières évaluées lors des examens finaux et déterminant l'accès à l'université pour réduire les dépenses nationales. Cette mesure fait aussi partie du dernier programme de réforme économique négocié avec le FMI, soulignant la nécessité pour le Caire de diminuer sa dette publique tout en tentant de préserver les services essentiels. Les enseignants doivent désormais chercher à compenser les salaires insuffisants par des cours privés.
Les nouvelles sportives à présent avec Eric Manirakiza. Bonjour Eric.
Bonjour Yacouba.
Nous commençons bien évidemment par la troisième journée des éliminatoires de la CAN à Maroc 2025. Le Botswana a subi hier le Cap-Vert, la RDC poursuit son chemin. Le Ghana a été tenu en échec par le Soudan.
Dans leur match de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations CAF Total Energy, groupe C, le Botswana a réussi à s'imposer 1-0 à l'extérieur contre le Cap-Vert jeudi grâce à un but précoce marqué par Tumisang Orebonye. L'Égypte est en tête d'une groupe avec 6 points en 2 rencontres, tandis que la Mauritanie, qui ne compte qu'un point, affrontera l'Égypte ce vendredi pour tenter de combler le fossé. La RD Congo a poursuivi son parcours sans faute dans le groupe H en s'imposant lors d'un match serré contre la Tanzanie avec un score de 1-0 au stade des Martyrs. Le Ghana voit sa campagne de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations compromise avec un match nul, 0 but partout contre le Soudan au stade Accra Sports jeudi. Les Black Stars pointent maintenant à la troisième place du groupe F avec seulement 2 points après 3 matchs. L'Angola est en tête du groupe avec 6 points en 2 matchs et va affronter le Niger ce vendredi. Dans les autres rencontres, le Burkina a battu le Burundi 4-1, l'Algérie a renversé le Togo 5-1, le Zimbabwe a obtenu une victoire essentielle de 1-0 face à la Namibie. Le groupe reste très compétitif avec un match entre le Cameroun et le Kenya prévu pour ce vendredi.
En Ligue des Nations en Europe, eh bien, l'Angleterre a été battue 2-1 par la Grèce à Wembley.
Ah oui, l'Angleterre finaliste de l'Euro 2024 a subi une embarrassante défaite de 1-1 contre la Grèce jeudi à Wembley, en deuxième division de Ligue des Nations, en encaissant un dernier but dans le temps additionnel. La Grèce menaçante devant et appliquée derrière est repartie de Londres avec la première victoire de son histoire contre la sélection aux Three Lions.
De leur côté, l'Italie et la Belgique ont fait un match nul, 2-2.
L'Italie a mené 2-0 face à la Belgique avant d'être réduite à 10 et de perdre pied devant son public au stade olympique de Rome, mais a réussi à arracher le nul, 2-2, au terme d'un match de Ligue des Nations au scénario fou jeudi. La nationale affronte Israël lundi à Udine et peut faire un grand pas vers les quarts de finale de la Ligue des Nations en cas de succès. La Belgique sera, elle, opposée à la France, deuxième avec 6 points après son succès face à Israël, 4-1.
Merci, Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Yacouba Ouidraogo, toujours avec vous pour vous présenter les dossiers du jour. Ici aux États-Unis, un comté de l'État du Wisconsin joue un rôle disproportionné dans la victoire des démocrates ou des républicains à la Maison-Blanche en novembre, selon les analystes. Veronica Balderas Iglesias de la VOA nous amène dans le comté de Dan, où la lutte pour influencer les votes s'intensifie à l'approche de l'élection. Récit Rosine Munezero.
Gagner le Wisconsin, un état pivot ou swing state, pourrait faire basculer le candidat démocrate ou républicain à la Maison-Blanche. En 2016 et en 2020, cet état a été remporté par moins d'1% des voix. Alors que la plupart des comtés de Wisconsin penchent vers le conservatisme, Dane, le deuxième plus grand comté de l'État et siège de l'Université de Wisconsin, est en bastion libéral. La candidate démocrate Kamala Harris devrait l'emporter ici, mais c'est le nombre de voix qu'elle obtiendra qui compte. Mike Wagner, politologue à l'Université de Wisconsin-Madison.
Si elle parvient à surpasser le taux de participation dans le comté de Dan, la marge de victoire sera si importante qu'elle pourrait suffire à lui faire franchir la ligne d'arrivée.
La présence conservatrice dans ce comté en pleine expansion peut aussi être exploitée par la campagne du candidat républicain Donald Trump, selon M. Wagner.
Cet État va se jouer entre 20 et 4 000 voix. S'il peut encourager 2 ou 3 000 personnes à voter ici, cela pourrait suffire à compenser l'état qu'il subit dans les banlieues.
Le Parti démocrate et le Parti républicain, qui visent une forte participation en novembre, adaptent leur message pour attirer leurs partisans dans ce comté de Dane. Le Parti démocrate mise sur le fait que les électeurs ne veulent pas aller, je cite, « à reculons ». Alexia Sabre est la présidente du Parti démocrate du comté.
La préservation de la démocratie est une question très importante, de même que l'accès aux soins de santé reproductive.
Le message des républicains se concentre sur l'économie. Brian Schemming, président du Parti républicain du Wisconsin.
Le choix est entre Donald Trump, qui a été un succès économique avéré en tant que président, et Kamala Harris, qui est, avec Joe Biden, un échec avéré.
Les démocrates contestent cette évaluation, mais la plupart des électeurs du comté de Dane ont probablement déjà décidé pour qui ils allaient voter. Dans l'ensemble de l'État, seuls 4% des électeurs sont réellement indécis, selon un sondage réalisé par l'Université Marquette. John Johnson est chercheur à l'Université Marquette.
Certains sont indécis parce qu'ils ne prêtent pas vraiment attention à la politique et qu'ils la trouvent frustrante.
La course étant très serrée, les partis vont continuer à courtiser les indécis dans le comté de Dane et au-delà, dans l'espoir que leurs votes vont faire la différence.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
États-Unis, toujours, le puissant ouragan Milton a balayé dans la nuit de mercredi à jeudi la Floride, provoquant tornades et inondations, mais les autorités ont fait part de leur soulagement face à des dégâts moins importants que prévu. L'ouragan s'est affaibli avant de toucher terre et la submersion marine n'a pas été aussi importante que celle observée pour l'ouragan Helene qui a touché le sud-est des États-Unis fin septembre. Cependant, plus de 3,1 millions de foyers étaient privés de courant hier à travers la Floride. Pour un témoignage, Eric Manirakiza a joint un habitant de Tampa Bay, Hilaire Ntangazawa.
Nous avons passé une nuit très très dure avec un très grand bruit du vent. Dans toute ma vie, je n'ai jamais entendu un vent si fort que celui que j'ai entendu la nuit passée. Et puis aussi la force, la vitesse, c'était incroyable avec beaucoup de pluie. Donc, bon, si je commence par directement autour de moi, il n'y a pas eu de dommages à notre maison. Et seulement, il y a beaucoup de débris partout. Par exemple, même la piscine était pleine de feuilles, de feuillages, de branches d'arbres parce que le toit de la piscine s'est envolé. Et puis, dans les environs, j'ai un voisin qui, avec le toit, est parti. Et donc, je viens de faire un tour dans le quartier. Il y a beaucoup de certains voisins qui ont les toits partis, les clôtures, et il y a les arbres qui sont tombés sur la route. Mais le plus grand problème que je trouve dans mon voisinage, c'est tous les lacs, puisque là j'habite, c'est une zone qu'on appelle l'Indo Lakes, où il y a beaucoup de lacs. Les lacs ont beaucoup inondé et puis sont entrés dans les maisons et dans la rue. Donc les rues, c'était plein d'eau et les maisons ont été envahies par l'eau des lacs, parce que ça faisait deux jours qu'il pleuvait et puis au cours de la nuit, lors de l'ouragan, l'ouragan a ramassé de l'océan et versé sur la terre. Et puis, donc, j'ai vu aussi des maisons vieilles qui sont tombées. Ça, ce sont des choses que j'ai vues de mes propres yeux dans un rayon qui ne dépasse pas, je dirais, même pas 5 kilomètres, il y a 5 kilomètres où j'ai pu circuler. Mais en regardant la télévision, il y a eu beaucoup de dommages dans Tempa. Je crois que la presqu'île de Saint-Pétersbourg, là où je travaille, je crois qu'on n'a même pas encore accès à cet endroit parce que ça a été la catastrophe avec les débris, avec les inondations et Tempa. Il y a beaucoup d'inondations, je regardais sur la télévision. Saint-Pétersbourg, même le stade de baseball, le toit s'est envolé. Il n'y a plus de toit, alors que c'était vraiment un toit construit pour résister à une vitesse de vent de 150 miles per hour, donc presque 250 km par heure. Donc, quand on regarde autour de nous, c'est comme c'est après la guerre, une guerre où il n'y avait pas de résistance ou de combattants. Partout sont des débris. Et heureusement que pour moi, là où j'habite, là où je suis resté, vraiment, il n'y a pas eu de dommages, non.
Il y a eu des morts qui sont signalées. Heureusement, beaucoup moins nombreux qu'on s'y attendait.
Apparemment, il n'y a pas eu beaucoup de dommages humains. On attend toujours. J'ai appris seulement qu'il y a 8 personnes qui sont mortes, 4 par tornade, 2 par inondation. Parce que les gens ont respecté cette fois-ci les consignes des dirigeants qui nous avaient dit que tous les personnes qui habitaient dans les zones d'inondation, les zones d'évacuation, de vider les lieux. Et les gens ont vidé les lieux. On disait que c'était plus de 2 millions de personnes qui avaient vidé les lieux pour aller dans d'autres villes, là où l'impact n'allait pas être grave. Je crois que c'est la seule raison où on n'a pas beaucoup de pertes humaines. Sinon, avec l'ampleur du vent et aussi de l'eau que j'ai vue hier, je ne crois pas que les gens qui étaient à la proximité de l'arrivée de l'ouragan auraient pu survivre.
Hilaire Ntangazoa, habitant de Tampa Bay en Floride.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Lomé sur 102.3 FM.
Direction Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Dans cette mégalopole, le sport n'est plus réservé aux jeunes car de plus en plus de personnes du troisième âge se mettent aux activités physiques pour entretenir leur forme. Et il y en a pour tous les portefeuilles. Reportage de Yacine Sio.
Il est 7h du matin et Abidjan se réveille tout doucement. Mais Jean Chissou n'est pas du genre à rester au lit. Comme 3 fois par semaine, il fait son footing matinal. À petite foulée, ce bon vivant âgé de 65 ans enchaîne près de 20 km.
J'avais un poids sur moi. Quand je marchais, un peu je suis étouffé, je suis fatigué. Et depuis ce temps, quand j'ai commencé à faire le sport, je n'ai plus de problème. Maintenant, je marche sans inquiétude, sans problème.
Pour Madeleine et Marie-Joseph, hors de question de se laisser aller. Âgées l'une et l'autre de 70 ans ou presque, les deux amies connaissent les vertus du sport qu'elles pratiquent au gymnase.
Vous savez que la personne de troisième âge est enclin à des maladies cardiovasculaires. Donc, on nous conseille de faire du sport, c'est conseillé. Donc, c'est ce que nous essayons de faire. Ça nous apporte beaucoup. Et moi, j'ai remarqué qu'avec le sport, j'ai perdu des kilos. Donc, ça m'a dégraissé. Donc, ça permet de ralentir le vieillissement, moi, je pense.
Et oui, stop. On se relève tout doucement.
Étirement, échauffement, renforcement musculaire, ce jour-là, rien ne leur est épargné. Avec leur coach, Madeleine et Marie-Joseph ont été claires. Aucun traitement de faveur en raison de leur âge.
Souvent, les gens me disent « Ah, avec des cheveux blancs comme ça, vous réussissez à faire du sport encore ?» J'ai dit « Mais le sport, mon père en avait plus de 90 ans, mais il faisait du sport. » Même ma mère, en ce moment, elle a plus de 100 ans. Mais quand vous dites que vous voulez faire quelque chose, vous dites « Non, 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 laissez-moi, je vais faire des exercices. » Vous voyez, et ça, ça lui fait du bien. Moi, je pense que les propriétaires des gymnases gagneraient à faire un prix spécial afin que les personnes du troisième âge puissent faire du sport en salle à moindre coût.
Car le sport en salle coûte cher et il n'est pas adapté à tous les portefeuilles. Pour entretenir leur corps et leur forme, Amos et Antoine préfèrent, eux, s'entraîner à domicile.
Donc, quand vous voyez, depuis le bas jusqu'en haut, on peut travailler sur tout son corps sans forcément aller dépenser des sommes folles. On peut vraiment obtenir pratiquement les mêmes résultats en faisant ces exercices. C'est vrai que les maladies peuvent survenir, mais on peut éviter beaucoup de maladies en prenant toutes ces précautions.
Antoine est un octogénaire en bonne santé. Devant son ordinateur, il suit religieusement les consignes de son coach basé au Canada dans ce programme de fitness dédié au troisième âge.
Surtout si j'ai des douleurs aux épaules, ça a l'air rapidement. Je m'en parle.
Les pratiques du sport me procurent un bien-être. C'est-à-dire que je peux, à 80 ans, me mouvoir aisément, pas une mauvaise respiration. Et j'ai ma montre connectée qui m'aide. Avec cette montre connectée, j'ai le pouls et la tension. Donc pendant que je fais le sport, ben, je surveille un peu les activités pour ne pas avoir de mauvaises surprises.
Selon l'Organisation mondiale de la santé, 3 à 5 millions de personnes meurent chaque année dans le monde en raison du manque d'activité physique. Des données statistiques qui n'effraient pas les sportifs aux cheveux blancs d'Abidjan. Yacine Sio pour VOA Afrique, Abidjan.
La voix de l'Amérique, Bongi 101.7 FM.
Au Mali, l'un des principaux hôpitaux de Bamako utilise le théâtre pour aider les personnes souffrant de maladies mentales. Dans le cadre de ce programme de traitement, les patients bénéficiant de soins psychiatriques se produisent en utilisant le genre théâtral traditionnel, le koteba. Davantage avec Michel Joseph.
Dans la cour du service psychiatrique du point G, l'un des principaux hôpitaux de Bamako, un petit groupe de patients danse au rythme d'un djembé, tambour traditionnel d'Afrique de l'Ouest. Ils jouent ensuite les scènes d'un conflit villageois. Un jeune patient, Mamadou Diara, crie sur un autre en bambara. Le groupe participe au koteba, une forme traditionnelle de théâtre pratiquée par le plus grand groupe ethnique du Mali, les Bambara. Ce genre mêle des jeux d'acteurs, des chants et des danses.
Non, je n'ai jamais fait de théâtre, je n'ai jamais dansé. Mais une fois que j'ai commencé, Dieu m'a donné la connaissance de ces choses. Tout ce que j'essaye, je le réussis. C'est le genre de personne que je suis.
Ici, au point G, le koteba est un moyen d'offrir un soutien aux personnes bénéficiant de soins psychiatriques. Adama Bagayoko, 67 ans, est l'un des premiers acteurs à avoir introduit cette tradition dans le service psychiatrique en 1983. Selon lui, le koteba est important parce qu'il donne aux patients le droit de s'exprimer.
D'abord, je vais parler de la maladie mentale. Elle intervient au moment où tous les contacts sont coupés, où tu es vraiment carrément exclu. C'est ça, c'est entre le moment qu'on dit que tu es fou. Mais quand ils viennent ici, ils se rendent compte à travers le koteba qu'ils ne sont pas exclus parce qu'on leur donne la parole. On se touche entre nous, on se côtoie entre nous, on danse ensemble, on rit ensemble, on fait des tapes. Donc, voilà un peu l'importance du koteba.
Les représentations du koteba au point G évoquent le plus souvent les problèmes réels de la société. Pour ce jour, les patients jouent une scène familière au Mali où les petits litiges sont résolus au sein de la communauté. Dans un village, un homme est accusé de vol. Alors que les villageois s'attroupent autour de lui avec colère, il s'échappe et fuit le village. Souleymane Koulibaly est un psychologue clinicien à l'hôpital du Point G.
Vous savez que le koteba, c'est une technique traditionnelle d'animation qui a été développée dans la zone Bamara pour vraiment aborder les problèmes sociaux souvent qui sont dramatiques, dans le but de les dédramatiser et d'assurer la cohésion sociale entre les différentes personnes.
Le Mali compte moins de 50 professionnels de la santé mentale pour une population de plus de 20 millions d'habitants, selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé datant de 2022. Les personnes souffrant de maladies mentales sont souvent exclues de la société. Le côté bas permet ainsi à Mamadou Diarra et ses compagnons de se sentir mieux dans leur monde qu'ils créent.
C'est ici que s'achève cette édition du Monde aujourd'hui. Merci de rester fidèle au programme de VOA Afrique. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Yacouba Ouédraogo, Georges Léonard Sayo à la réalisation. Ici va le Monde aujourd'hui. L'info continue sur voaafrique.com ainsi que sur nos pages Facebook, YouTube, X et Instagram. Je vous souhaite une excellente journée en compagnie des programmes de VOA Afrique.